Merci Ruben. Bonjour tout le monde, content de vous voir, de vous revoir après les congés. Certains ont été en déplacement, on est de retour et ça fait du bien d'être là et on va ouvrir la Bible ensemble et lire le livre de Ruth, chapitre 4. Mais j'aimerais avant de lire cela, de vous encourager à réfléchir un petit peu à votre sort individuellement, comment vous ressentez votre état, de l'état de votre vie. Est-ce que ça va bien ou est-ce que ça ne va pas bien? Est-ce que vous considérez que vous avez beaucoup de chance dans la vie? Quand vous considérez comment vous vivez, la tournure des événements, est-ce que vous êtes des gens qui disent individuellement, en fait, j'ai pas vraiment beaucoup de chance? Je vois que d'autres personnes sont promues, héritent peut-être un grand héritage, ont subitement un job, un boulot, trouvent la personne avec qui elles veulent partager leur vie. Moi, j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Est-ce que tu as plutôt l'impression d'être quelqu'un qui a de la malchance? À la limite, quelqu'un qui est maudit. Tellement les choses ne se passent pas comme tu le voudrais dans ta vie. On peut tous considérer parfois qu'on a des moments de malchance. Mais c'est vrai que parfois, quand on se compare aux autres, on voit qu'ils reçoivent beaucoup plus que ce que nous recevons. Et on connaît aussi des gens où on se dit, ouais, vraiment, ils n'arrivent pas à gérer, ils n'arrivent pas à sortir de cette maladie, ils n'arrivent pas à avoir un coup de chance. C'est dur pour lui, c'est dur pour elle. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur de bonnes surprises. De bonnes surprises. Et c'est la fin de notre série en Ruth. On a regardé la vie de cette femme qui a vécu il y a bien, bien longtemps dans la Bible, dans l'Ancien Testament, donc bien avant Jésus-Christ. Et elle a eu, n'oublions pas, un départ difficile. Elle a vu son jeune mari décédé, elle s'est retrouvée un peu démunie. Son beau-frère et son beau-père étaient décédés aussi. Elle n'avait que sa belle-mère. Et elle a décidé de quitter son pays et d'aller s'installer dans la pauvreté en solidarité avec cette belle-mère. Et aujourd'hui, on va voir qu'après un petit rebondissement, tout se passera bien pour Ruth. C'est la fin de l'histoire est une belle fin. C'est un happy end, c'est la fin où tout va bien. Et peut-être que ça va un peu renforcer ce sentiment qu'on a que ben, les choses se passent bien pour les autres, mais pas pour nous. Mais en fait, le but de ce quatrième chapitre n'est pas de nous comparer directement à Ruth et de dire ben, « elle a eu plus de chance que moi », mais c'est plutôt de voir comment sa petite vie s'est inscrite dans un plan de Dieu qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus long, certainement, mais aussi beaucoup plus grand et noble et digne. Et dans ce plan-là, nous sommes invités à voir comment notre vie s'inscrit également. Même si nous semblons, peut-être aujourd'hui malchanceux, en fait, on va voir qu'on est beaucoup plus béni qu'on le pense. Et même si notre vie semble ne pas avoir une grande signification dans le cours des événements, on n'est pas président d'un pays ou roi, on a quand même un rôle à jouer. Et on est là pour le plan de Dieu qui va continuer au-delà de ce qui a commencé. Mais c'est seulement en voyant les détails de la vie de cette femme il y a si longtemps qu'on commence à voir comment Dieu lui-même organise, orchestre les choses pour accomplir son bon dessein. On va le lire ensemble, je vais le lire pour nous, Ruth chapitre 4 et je vais lire tout le chapitre. On avait été un peu sur une note de suspense à la fin du chapitre 3. On attendait que Boaz, l'homme qui était un proche de la famille de Ruth, puisse agir pour son secours. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assieds-toi ici, toi, un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Asseyez-vous ici ». Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat « Naomi est revenue du pays de Moab et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech, son mari, son feu mari. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit, je la rachèterai. Boaz dit, le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt. Et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, fais-en l'acquisition pour ton compte, et retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Maclon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de la ville, de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille, semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérets que Tamar a donnée à Juda. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat, que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime la plus l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que cet fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Pérets. Pérets eut pour fils Hetsron, Hetsron eut Ram, Ram eut Aminadab, Aminadab eut pour fils Nakhshon, Nakhshon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. Voilà, on va voir ça, il y a beaucoup de détails, c'est un peu la confusion, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de procédé, c'est pas exactement comme ça la commune des Verts, là où j'habite, quand on veut acheter quelque chose, mais on va essayer d'expliquer tout ça, et on va comprendre un peu où ça nous mène, cette histoire. Tout d'abord, voyons le bon rédempteur, le bon rédempteur. Il y a deux hommes qui ont la possibilité de racheter, d'être des rédempteurs pour Naomi et sa famille. Et donc il s'agit de Boaz et d'un autre. Et l'autre, on n'a même pas appris son nom. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a cette transaction de ce champ, la parcelle de terre, qui appartenait avant à Élimélec, le mari de Naomi. Élimélec est décédé, ses fils sont décédés aussi, mais le champ reste là. Et ça appartient à Naomi. Mais il faut comprendre que à l'époque, la terre et les gens sont fort reliés. C'est pas comme ici à Bruxelles où on achète une parcelle de terre, on achète une maison, puis on va habiter ailleurs, on va le vendre à une autre famille et quelqu'un d'autre. Les terres étaient passées de fils, de père en fils, de père en fils. Et s'il n'y avait pas de fils, on le donnait aux filles. L'héritage devait rester dans la famille de ceux qui l'avaient reçu. Et donc c'était important que cette parcelle de terre ne disparaisse pas, mais qu'elle soit donnée à un héritier de la lignée d'Élimélec. Élimélec et son fils, ou alors sa belle-fille, qui aurait alors un autre fils qui puisse avoir l'héritage de cette terre. Et c'est ça qui est en train de se passer. Alors ça peut sembler un peu commercial. J'achète un champ et je reçois une femme avec. Mais en fait, c'était pour respecter la lignée, c'était pour respecter cet héritage de chaque membre du peuple de Dieu. On ne prend pas l'héritage de quelqu'un d'autre pour le donner à sa famille, mais ça doit être la famille qui hérite de cette partie de terre. Et il y avait en fait une loi qui concernait le fait de perpétuer la lignée de quelqu'un par sa veuve. S'il était décédé avant d'avoir des fils, on devait prendre la veuve pour épouse et pour lui permettre de porter un fils qui pourrait porter le nom du défunt et recevoir l'héritage du défunt. Donc techniquement, ce n'est pas une rédemption. Je sais qu'on utilise le mot de rédemption et on pense souvent à Jésus, notre rédempteur, qui nous a libérés de la mort et de la puissance du mal. Ce n'est pas ce genre de rédemption-là qu'il s'agit, mais c'est plutôt un acte de solidarité et de responsabilité. J'ai lu un commentaire qui m'a vraiment aidé à comprendre ça cette semaine. Ce que Boaz fait là, c'est un acte de solidarité, solidaire avec les pauvres, avec les membres de sa famille, et un acte de responsabilité envers les faibles. Il dit je les prends en charge. Je vais être responsable pour eux. N'oubliez pas que l'autre, qui est le premier interrogé, il ne prend pas ses responsabilités. Donc c'est un contre-exemple pour montrer à quel point ce que Boaz va faire est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de noble. Parce que l'autre, il va éviter cette responsabilité. Il ne sera pas le bon rédempteur. Il n'a pas trouvé chaussure à son pied, comme on dit. Finalement, il va devoir acheter une autre paire de sandales parce qu'il n'en reste qu'une. Il doit donner l'autre comme signe qu'il cède cette parcelle de terre. Parce qu'il ne veut pas avoir Ruth comme épouse et avoir un fils par Ruth qui alors lui-même hériterait de cette parcelle de terre et s'occuperait de cela et le recevrait en héritage. Qu'est-ce qu'il donne comme raison pour ne pas assumer cette responsabilité? Ayant dit qu'il le rachètera, après il dit « Ah non, je ne peux pas faire ça ». Pour mon compte, sinon, verset 6, je détruirai mon héritage. Il est en train de dire, non mais ce ne serait pas bon pour ma famille, mes enfants, peut-être qu'il avait déjà d'autres enfants, ne vont pas hériter de cette parcelle-là. Ça va être l'autre qui va hériter de cela. Et je ne vais pas faire ça. Vous savez, j'ai ma famille peut devenir une excuse. Une excuse qu'on utilise, comme cet homme-là, pour ne pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas racheter la terre, il pouvait, mais il n'a pas osé, il n'a pas voulu. Et je me demande si nous, on utilise aussi cette excuse parfois en disant « Ah mais j'ai ma famille ». Alors soyons clairs, bien sûr, nous croyons ici à l'Église que la famille biologique a de l'importance. On doit prendre soin de notre famille, on doit prendre soin de notre famille biologique. On n'est pas une secte qui dit « Voilà, il faut couper les ponts avec votre famille et ne pas leur parler, ne pas prendre soin d'eux ». Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en même temps, nous devons nous souvenir des paroles de Jésus qui a été très claire à ce propos, qu'il y a une division qui s'opère dans les familles biologiques. Si quelqu'un a la foi en Christ, il doit mettre Jésus en premier. Et qu'il ne peut pas dire « Ah non, mais moi, c'est ma femme, je dois m'occuper de ma femme. » Ou « Ah, mais mes enfants, c'est ma priorité. » Ou « Mes parents, je dois plaire à papa et maman. » Jésus a dit ceci, « Toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » C'est en Matthieu 19, si vous voulez vérifier. Les termes et les conditions sont clairs dans la Bible, il n'y a rien de caché. Ce n'est pas en tout petit, il ne faut pas cocher une case. Il le dit clairement, que si on veut suivre Jésus, on va devoir à certains moments renoncer à l'approbation ou à la faveur de nos parents, de nos proches, parce qu'on a dit « Jésus d'abord ». C'est Jésus d'abord. Et je quitterai d'autres choses. Mais cet homme-là, malheureusement, a mis sa famille, son intérêt personnel, avant la volonté de Dieu. Boaz, par contre, va jusqu'au bout. Il prend la responsabilité, il exprime la solidarité, il va jusqu'au bout, il officialise la relation. Tout le monde le saura maintenant, c'est Boaz qui l'a pris en charge parce qu'il a dit devant 10 hommes, c'est une sorte de jury, 10 hommes responsables le savent maintenant, c'est un traité légal. Est-ce que sa façon d'agir traite Ruth un peu comme un objet ? Ça peut avoir l'air de cela, n'est-ce pas ? Mais gardons bien ceci à l'esprit. Ruth avait demandé cette relation. On l'a vu au chapitre 3, Ruth avait demandé à Boaz, « Boaz, est-ce que tu veux bien me racheter ?» C'est la relation qu'elle voulait avec lui. Elle savait qu'elle pouvait l'épouser. Elle voulait que Boaz la prenne sous son aile, et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc c'est une relation qui est consentie, bien sûr, par les deux. Le bon rédempteur, qui est plus grand que celui qui les a précédés, va faire quelque chose d'autre pour nous. Il va en fait nous inclure dans sa famille. Nous parlons de Jésus, et Jésus vient bien sûr beaucoup plus tard, mais il est celui qui accomplit tout ce qui est des modèles, sont des modèles de l'Ancien Testament, qui nous préparent à sa venue. Quand nous considérons comment nous sommes sans Jésus, on peut considérer différentes choses. On peut dire qu'on était coupable, bien sûr, rebelle, révolté, coupable de transgression, de péché, de mal contre Dieu. C'est vrai, absolument. Mais il y a d'autres choses qu'on peut dire aussi sur notre état sans Jésus. C'est que nous sommes étrangers. On n'appartenait pas au peuple de Dieu par notre naissance, la plupart d'entre nous en tout cas. On était sans citoyenneté, sans droit dans le royaume de Dieu. On était même sans ressources, parce que c'était impossible pour nous d'acquérir une place dans le royaume de Dieu ou au ciel. On était démunis. On était perdu. Donc il ne faut pas seulement parler de culpabilité et de rébellion contre Dieu, bien que ce soit le cas, mais aussi à travers Ruth, nous voyons aussi notre état de démuni, faible, sans ressources. On a besoin de quelqu'un qui viendra nous secourir. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour nous. Le bon rédempteur, il est venu à la rescousse des faibles et des perdus. Boaz est une image de ce beau rédempteur. Deuxièmement, nous voyons qu'il nous bénit. À travers cette histoire, nous voyons comment Dieu, notre Dieu, nous bénit de manière abondante. Parce qu'un fils est né, ça se passe très vite au verset 13, regardez comment ça s'enchaîne, on a le sentiment que le narrateur raconte ça très vite parce qu'il veut arriver au fils qui va naître. Mais les choses vont quand même se faire dans l'ordre. Et ça a pris du temps. D'abord, Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme. Puis il s'unit à elle. Et puis l'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. Et elle mit au monde un fils. C'est toujours Dieu, bien sûr, qui accorde à quelqu'un de tomber enceinte. Ce n'est pas purement biologique, c'est la volonté du Seigneur qui se fait. Et il a décidé que Ruth, qui avait été mariée avant et qui n'a pas eu d'enfant avant, avec son premier mariage, que Ruth va pouvoir accoucher. Et elle devient mère, même si Boaz est plus âgé, il devient père à son âge. Et très rapidement, on saute 9 mois et elle accouche. Et qui est celui qui est né ? Ben c'est le petit bébé. Et on voit à travers cela la bénédiction de Dieu. Qui est béni dans cette histoire ? Ici, on va prendre un peu de recul et on va essayer de voir le livre dans son ensemble pour comprendre tous ceux qui sont bénis par Dieu, qui reçoivent du bien de la part de Dieu. Qui est béni dans le livre ? Ben, Boaz est béni. Au chapitre 2, on a ce tableau de Boaz comme homme béni par ses hommes, verset 4, qui veulent que Dieu lui fasse du bien. Et au chapitre 2, regardez chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, verset 20, Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté. » Et c'est une parole de bénédiction qu'elle prononce par rapport à Boaz. Ces phrases de bénédiction ne sont pas anodines. C'est vraiment quand on parle de bénédiction dans la Bible, elles ont vraiment du sens, ces bénédictions. Donc Boaz est béni, Ruth est bénie. Les paroles de Naomi au chapitre 1, verset 9, « Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Une prière qui a trouvé sa réponse. Boaz aussi avait béni Ruth au chapitre 2, verset 11. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. 2:12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Je pense que c'est un verset clé dans tout le livre. Au chapitre 3, verset 10. « Sois béni de l'Éternel, ma fille. » Vous voyez, toutes ces bénédictions vis-à-vis de Ruth qui avaient été dites au chapitre 1, 2, 3 sont en train de s'accomplir au chapitre 4. C'est l'accomplissement. Est-ce que vous vous rendez compte donc de l'abondance de la bénédiction? Et ça nous aide pour réfléchir à notre situation. Parce que oui, on peut tous se plaindre de quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui nous manque, quelque chose qu'on n'a pas reçu, qu'on a voulu. Mais vous savez, Dieu nous a donné beaucoup de bénédictions. Parfois, on a l'impression que le frigo de bénédictions est vide. C'est pas le moment après les courses, c'est le moment où on doit aller faire des courses. On dit, oula, il n'y a pas beaucoup de bénédictions là-dedans, dans mon frigo. Mais vous savez, dans la réalité, le frigo de bénédictions est rempli. Mais je ne parle pas seulement de bénédictions matérielles. Bien sûr, il y a des bénédictions matérielles. Lorsque nous avons de la nourriture, lorsque nous avons des vêtements, ben nous remercions Dieu parce que Dieu pourvoit pour nous de jour en jour. Mais aussi, il nous donne des relations, des amis, des membres de notre famille. On peut remercier Dieu pour ces bénédictions relationnelles. Des frères et sœurs dans l'Église, ce sont des bénédictions d'avoir une Église, n'est-ce pas? Et puis, il y a la multitude de bénédictions spirituelles. La Bible dit, il faut retenir ça, c'est la vérité, en Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit que Dieu notre Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Ça veut dire que si tu es en Christ, tu es béni spirituellement. Il n'y a pas de bénédiction spirituelle que les autres chrétiens ont et que toi, tu n'as pas. Ou que toi, tu as eu que la moitié ou un dixième et les autres ont eu tout. C'est chaque chrétien qui a le même nombre de bénédictions spirituelles, ce sont les mêmes, on a toutes les bénédictions. D'appartenir à Dieu, d'être pardonné, d'avoir le Saint-Esprit, d'être membre de son royaume, etc., etc. Je pourrais continuer. Ruth est bénie, Boaz est bénie et Naomi est bénie aussi. On a l'impression d'une petite confusion là au chapitre 4 quand on vient de le lire, au verset 16. 4:16, Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Verset 17, les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». On dirait « Non, en fait c'est le fils de Ruth. Un fils est né à Ruth, c'est le mauvais prénom là. Naomi c'est la grand-mère. » Oui, mais c'est en fait une grâce que Dieu a faite à Naomi, parce que Naomi ne pensait pas pouvoir avoir un fils, et maintenant elle a un fils. Et en plus, le verset 15 nous dit qu'elle a Ruth, qui est meilleure que 7 fils. Quelle bénédiction abondante à nouveau, quelle grâce de la part de Dieu que Dieu décide de bénir Naomi, parce que nous avons vu dans les semaines qui passent que Naomi n'était pas toujours très recommandable. On peut comprendre que Dieu bénisse Boaz parce que lui est un homme bienveillant et généreux qui veut agir correctement. On peut comprendre que Dieu veuille bénir Ruth même s'il était étrangère et démunie parce qu'elle faisait des efforts pour prendre soin de sa belle-mère et pour travailler pour elle. Elle était aimable, fidèle. Mais que Dieu bénisse Naomi, c'est une surprise là, n'est-ce pas? On ne trouverait pas ça normal parce qu'elle n'a pas été exemplaire jusque-là. Elle est partie du pays promis. Elle était allée se mélanger avec des non-croyants. Elle avait donné ses fils à des femmes non-croyantes. Elle avait découragé ses belles filles à la suivre quand elle voulait partir. Et puis au chapitre 3, son plan n'avait pas été très sage, pas très recommandable. Mais le Seigneur n'arrête pas de faire du bien et de faire preuve de grâce. La bienveillance de Dieu est réelle envers ceux et celles qui ne le méritent pas. Absolument pas. Alors aujourd'hui, nous devons saisir que si Dieu nous aime, c'est aussi assez surprenant. Quand nous savons de quoi nous sommes capables, et de ce que nous avons fait par le passé. Et pourtant, le plan de Dieu est si bon et sa bénédiction est si bonne. Quand on a lu la fin de l'histoire, les paroles du début semblent bien dérisoires, un peu ridicules. Imaginez comment Dieu entendait les propos de Naomi qui sont rapportés au chapitre 1. On va juste jeter un coup d'œil au chapitre 1 parce qu'aujourd'hui on termine tout le livre. Elle avait dit « Je ne peux pas vous donner un mari. Hein, » Dieu sait qu'il va le faire. Elle avait dit au verset 11 « Retournez mes filles, suis-je encore en état d'avoir des fils ?» qui puissent devenir vos maris. Non, mais Ruth va avoir un mari et Naomi va avoir un fils. Bien sûr, pas par elle-même, mais par Ruth. Vous voyez, quand Dieu regarde les obstacles dans notre vie, il ne les voit pas comme nous. Il veut qu'on se souvienne de sa bonté, même à l'avance. La bonté qu'il a déjà démontrée par le passé. Ça nous enseigne, frères et sœurs, à dire et à reconnaître que Dieu est bon en toutes circonstances. Et de ne pas oublier de le dire aussi quand les cadeaux arrivent. Si je reçois un cadeau de la part de Dieu, ce n'est pas simplement que ma chance a tourné et que maintenant ça va mieux. Que enfin maintenant j'ai mon jour de chance. Non, je n'ai pas mérité enfin un peu de répit après tout ce que j'ai galéré. Si je reçois un cadeau et quelque chose de bien se passe dans ma vie, je peux dire mais merci Seigneur parce que c'est Dieu qui a pourvu dans sa bonté envers moi. J'ai attendu, j'ai crié, j'ai pleuré, maintenant j'ai reçu. Quelle grâce. Mais n'oublions jamais que Dieu est en train de nous faire du bien, est en train de nous bénir de manière spirituelle et aussi réelle. Et c'est pour ça qu'on arrive au chapitre 4, verset 14. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Le Seigneur est béni. » C'est une expression qui dit que nous disons du bien de Dieu, nous reconnaissons la bonté de Dieu lorsque nous bénissons Dieu. C'est en fait une louange à Dieu. Et c'est comme ça que nous devons agir. Lorsque nous voyons la bonté de Dieu se manifester dans notre vie, se montrer dans notre vie, eh bien, on devrait bénir Dieu, adorer Dieu, remercier Dieu. Et c'est ce qui est en Éphésiens aussi. Béni soit le Dieu et Père. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, Éphésiens 1. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Dieu nous fait du bien et nous lui rendons des bénédictions. Nous l'adorons en retour. Ça, c'est l'aboutissement du modèle de Boaz. Boaz avait fait du bien à Ruth. Jésus nous fait du bien, mais c'est pour que l'Éternel soit béni, célébré pour sa glorieuse grâce. Le bon Rédempteur nous bénit. En terminant l'histoire de Ruth, on va voir une troisième chose, dernière chose. C'est que nous ne sommes pas le héros. Tu n'es pas le héros de l'histoire. Ce livre nous permet de comprendre la bonne nouvelle de la Bible qui va être mise en œuvre par Dieu. Et un aspect essentiel de la bonne nouvelle, c'est que la gloire ne revient pas à nous. Nous ne sommes pas les plus importants. Pour le dire différemment, l'évangile concerne la gloire de Dieu. La plus formidable et merveilleuse personne dans le livre de Ruth, ce n'est pas Ruth, ce n'est pas Boaz, ce n'est pas Naomi, ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Et après ces quelques phrases qui se concentrent sur Naomi, elle est reconnaissante, elle est bénie, elle est là avec le petit bébé. Notre attention est attirée vers le bébé lui-même et vers sa descendance. Parce qu'il y a quelque chose qui vient après. Et c'est plus important que même ces personnages-là de l'Antiquité. Qui est-ce qui est là? Voyez, si le livre se terminait au verset 17, on penserait peut-être que voilà, c'est juste une petite belle histoire romantique entre Boaz et Ruth, comment une étrangère a pu trouver un mari et ne pas rester veuve. À la limite, on dirait comment une étrangère a été incluse dans le peuple de Dieu. Mais la raison pour laquelle ce livre figure, c'est parce que ce livre prépare ce roi qui va venir, et donc on va, à travers la généalogie, voir Boaz, Obed et Isaïe et David. Le roi David qui va venir dans le chapitre suivant, 1 Samuel. On va lire l'histoire de David prochainement, à partir de la semaine prochaine. Toute une généalogie qui se passe. Ça le renie aussi avec le passé, parce que par le passé, il y avait Rachel, il y avait la tribu de Judas et les fils de Jacob. Et puis on arrive jusqu'à David, un roi. Viendra de cette lignée, de cette union entre Ruth et Boaz. Dieu s'en est servi à travers les rebondissements de la situation. Boaz, un homme qui est sans descendant, rencontre Ruth, une femme qui n'a pas d'enfant, et Obed est né, et puis David naîtra, et puis il est le plus jeune de sa fratrie à Bethléem. Il sera le roi inattendu de son peuple, choisi par Dieu, oint par Samuel, et David sera un modèle dont nous allons entendre parler parce qu'il est l'ancêtre lui-même de quelqu'un d'autre. Alors vous savez, ce qui est intéressant, c'est parfois vous pouvez regarder des photos de vos grands-parents, etc., et de voir une ressemblance entre vous et eux. Mon frère, par exemple, il ressemble beaucoup à son arrière-grand-père. Une photo de lui, son portrait, vraiment montre à l'âge qu'ils avaient, la ressemblance qu'il y a. C'est génétique, évidemment, ça descend. Et donc, depuis le livre de Ruth, nous attendons quelqu'un de leur famille qui va ressembler à leur ancêtre. Logiquement, si vous êtes juif, des siècles après Ruth, vous attendez une autre femme comme Ruth, la servante de Boaz. Mais Ruth n'est pas la dernière femme de valeur dans la Bible. Après Ruth, longtemps après, des siècles plus tard, une autre femme, qui s'appelle Marie, apprend qu'elle va avoir un bébé, un garçon. Et comme au verset 13, l'Éternel lui permit de devenir enceinte. Et elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole, sa parole, s'accomplisse pour moi. » C'est dans Luc chapitre 1. Nous attendons donc une femme comme Ruth, et elle arrive. Nous attendons un fils comme Obed. En fait, Obed signifie « serviteur ». Il est nommé par les voisines, verset 17, un serviteur qui donnera le réconfort et le soutien à son peuple et à tous ceux qui se confient en lui. Mais non seulement serviteur, il doit être roi, comme David. On attend, et finalement, voici que vient le roi serviteur. Il est né à Bethléem. Il est un descendant de David. Il sera plus grand que David. Et nous voyons à travers lui le rôle le plus important dans l'histoire du monde. Alors quand on comprend cela, quand on a ce panorama devant nous de toute l'histoire de la rédemption, on commence à comprendre comment nous, individuellement, nous sommes tellement peu importants. Ce n'est pas notre histoire. L'Éternel était avant nous, il était à l'œuvre avant nous. Il est avec nous, mais il est éternel. Et nous n'avons qu'un petit rôle à jouer. Un rôle quand même, mais pas un grand rôle. Ruth et Boaz n'ont pas essayé de changer le monde, vous savez. Ils ont simplement moissonné dans un champ, et puis ils se sont mariés selon la volonté de Dieu, et ils ont eu un bébé. Mais tout cela s'inscrivait dans le plan de Dieu. Alors même si aujourd'hui notre vie semble insignifiante, une petite vie de quelques années sur Terre, n'oublions pas que ce n'est pas grave si notre vie est insignifiante, mais que la bonne nouvelle est que Dieu est en train de faire quelque chose d'héroïque, d'éternel, de durable, de formidable. Et son royaume vaut la peine d'être établi, vécu et éternel. Mais ça reviendra beaucoup plus tard. Alors, je vais terminer avec juste une note intéressante, historique, mais qui nous permet aussi de voir ce livre d'une manière un peu différente. Vous savez que les livres de la Bible étaient souvent relus à des fêtes. Il y avait une fête et on relisait l'histoire. Par exemple, à Purim, on relisait l'histoire d'Esther. Le livre de Ruth était relu par le peuple d'Israël chaque fois que c'était la Pentecôte. Alors, c'est la fête de la récolte et on lit l'histoire d'une récolte. Donc, c'est un peu logique. Mais c'est plus que ça. Parce qu'un jour viendra où c'est la Pentecôte et on voit l'abondance de la bénédiction qui est déversée parce que Dieu envoie son Saint-Esprit. C'est après la résurrection de Jésus. Jésus est monté au ciel et Dieu, alors à ce moment-là, ne rachète pas seulement une personne étrangère, Ruth, c'est des milliers d'étrangers qui sont là à Jérusalem, qui sont rassemblés. Et Dieu dit, je les inclurai dans mon peuple. Ça devient une maison de prière pour les nations. Le peuple de Dieu grandit par ces gens qui se tournent vers Christ. Et Dieu a une énorme récolte pour lui-même qui déborde au-delà d'Israël vers les gens étrangers. Tandis que Ruth n'était qu'une seule personne, elle est l'exemple de tous ceux parmi nous et ailleurs qui se tourneront vers le Fils de David, Jésus-Christ, et qui seront ajoutés en sa famille. Ça, c'est une surprise. Une belle surprise. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors louons-le aujourd'hui. Priez avec moi. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ton plan est grandiose. Et nous qui ne sommes quasiment personne, nous sommes des étrangers, nous sommes des gens démunis, nous sommes des gens petits, nous sommes inclus dans ton plan merveilleux. Alors nous voulons te bénir, nous voulons te remercier. Et nous voulons te prier aussi que nous puissions être humbles devant toi et être pleins de reconnaissance pour chaque bénédiction que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, d'être confiants, heureux et reconnaissants. Et donne-nous aussi d'être fidèles dans la part que nous avons à jouer, même si ce n'est que peu de choses. Que tout ce que nous puissions vivre, nous le vivions pour toi, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.